Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Merci à l'équipe qui a fait cette magnifique introduction musicale. Alors, une petite annonce avant de commencer. Il existe un groupe qui s'appelle Minicell, qui a été mis en place aussi dans notre église. Et les enfants de 0 à 4 ans sont invités à rejoindre ce groupe tout de suite. Je ne sais pas s'il y a encore des enfants de cet âge. Il ne semble pas. Enfin, si jamais, voilà, c'est le premier dimanche de chaque mois. Là, on a un petit peu de retard, puisqu'il y a eu Nouvel An il y a quelques semaines. Alors, vraiment, toute l'équipe de préparation, c'est-à-dire Zena, le groupe de louanges de Xavier et moi-même, on se réjouit de pouvoir vivre ce culte avec vous. On va prendre quelques minutes pour se saluer et se dire du bien. Qu'est-ce que c'est dire du bien de l'autre? Alors, vous connaissez tous cette question. Est-ce qu'il y a une différence entre des amis et des frères? Et quelle est la différence? Voilà, exactement. C'est exactement ça. Les frères, on ne les choisit pas. Et le problème, c'est que dans l'Église, on est des frères et sœurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Justement, les frères et les sœurs, on les aime en principe. On leur pardonne. On s'encourage entre nous. On s'aide. On se soutient. Et on fait des activités ensemble. Je dis normalement, parce que c'est peut-être pas toujours le cas, mais les frères et sœurs font quand même beaucoup de choses ensemble et justement se soutiennent. Et c'est important. Alors, je vous encourage maintenant à vous retourner, à vous dire bonjour et à vous dire peut-être un petit mot de bénédiction, d'encouragement les uns aux autres. Alors, prenons quelques minutes pour ça. Je vous laisse prendre place. On va continuer le culte. Voilà, nous allons continuer. Voilà, chut. Et je vous invite à prier. Nous allons prier. Chut. Seigneur, merci parce que tu nous accueilles aussi avec ton amour, avec ta présence. Merci parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Merci parce que, Seigneur, tu es là aussi pour nous faire du bien, pour nous visiter, pour remplir nos cœurs de ton esprit. Nous te demandons de nous accompagner pendant ce culte, que nos oreilles, que nos cœurs soient ouverts aussi à ce qui sera partagé, ce qui sera vécu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, ça va être un peu une question assez difficile, c'est quel effet fait le témoignage quand on partage notre foi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des persécutions, comme dans certains pays? Alors, le thème sera abordé par Philippe tout à l'heure. Et moi, je voulais vous partager deux exemples vécus ici en Europe ou en Suisse. Un temps, j'allais avec un copain témoigner de ma foi dans les cafés. Et une fois, j'étais au Café du Mollard avec ce copain et on partageait avec les gens qui étaient assis. On leur demandait si on pouvait discuter un peu avec eux. On leur partageait notre foi. Et après avoir discuté avec deux, trois personnes, ça s'était très bien passé, le patron du bistrot est venu et nous a vraiment fichu dehors, manu militari, en disant « Ici, ce n'est pas une église, si vous voulez prêcher, allez ailleurs. » Donc, bon, ça peut être compréhensible, hein, vu de l'extérieur, mais disons, la parole n'est pas toujours bien acceptée. Un deuxième exemple, c'est dans un camp, on avait appris une pièce qui s'appelait « Isola senza sole ». Je ne suis pas très bon en italien, mais je crois que ça veut dire « l'île sans soleil ». C'était une pièce très intéressante qui avait été montée par l'équipe, et le but, c'était d'expliquer un petit peu une allégorie sur la venue du Christ. En fait, c'est une histoire d'une île qui est sans soleil. Il n'y a jamais eu de soleil, il y a des nuages, il fait mauvais temps tout le temps. Et c'est une île qui est entourée de parois, de rocheuses, très difficile d'être atteinte. Et en fait, il y a une autre île où il y a du soleil tout le temps, il fait beau. Et les gens qui sont au soleil se disent, cette île mystérieuse où il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller les voir, puis leur expliquer qu'il y a aussi du soleil ailleurs. Alors ils montent des expéditions, je vous ferai grâce des détails, mais ils montent plusieurs expéditions, et finalement ils arrivent à atteindre ces gens qui sont sur l'île sans soleil, et ils leur disent qu'il y a le soleil. Et les autres disent, c'est pas possible, il n'y a plus de soleil. On a eu dans le temps, il y a très très longtemps du soleil, mais maintenant il n'y a plus de soleil, c'est pas possible. Et en fait, ils rejettent ces expéditions qui viennent les unes après les autres. Alors tout ça pour dire que cette pièce, je trouvais que c'était une belle allégorie. J'ai voulu dans ma commune, à l'époque en invoquant nos enfants à l'école, la présenter et la jouer à l'école. Et on m'a tout de suite dit, donc à Collet, hein, pour ceux qui savent où j'habite, c'est une pièce qui est beaucoup trop proche de Jésus. On ne parle pas de Jésus à Noël. À Noël, c'est la fête des sapins, c'est la fête des lumières, c'est la fête du Père Noël, etc. Donc, pas du tout, c'est trop ciblé, on ne peut pas faire ça à l'école. Voilà un autre exemple, parfois difficile. Voilà, il y a un troisième témoignage. Je vais passer la parole à Zena, qui va donner aussi quelques échos d'un complément au texte qui sera partagé aussi sur c'est la puissance de la prière dans le témoignage.
Bonjour. Alors, mon témoignage concerne donc ma participation que j'avais faite au camp de service Pâques il y a 2 ans. Et il y avait plusieurs groupes dans ce camp. Il y avait des groupes, donc ceux qui étaient dans la cuisine, il y avait ceux qui partaient dans différents stands dans la ville. Il y avait les jeunes qui partaient faire des louanges, chanter. Et un matin, ils sont venus vers nous pour nous demander de faire une prière et pour savoir où est-ce que Dieu voulait les envoyer ce jour-là. Et donc le groupe de prière en a prié, ils étaient avec nous. La responsable, elle a demandé si Dieu voulait nous dire quelque chose. Et je dois dire que je ne pensais pas que Dieu allait nous dire quelque chose. Je n'avais pas l'habitude à l'époque. Et puis, en fait, il a donné une image à chaque personne présente. Donc, les gens ont commencé à dire ce qu'ils recevaient. Et moi, j'étais là, ouais, mais moi, j'aurais rien. Puis finalement, tout le monde a eu quelque chose, moi aussi. Et j'ai réussi à dire mon image aussi. Et ils sont partis. Donc, les images qu'on a eues, elles s'imbriquaient les unes dans les autres, en fait. C'était des compléments. Ça se complétait. Et les jeunes, donc, ils sont partis et ils ont vraiment vécu. Ils ont pensé à tout ce qu'on leur avait dit. Et ils ont suivi, un peu comme des consignes. Et le soir, ils nous ont dit justement qu'ils avaient trouvé la personne que Dieu leur avait dit d'aller voir, qu'elle avait vraiment besoin de réconfort et de prière ce jour-là. Et à l'endroit où on leur avait dit qu'ils la trouveraient, et ce qu'on leur a dit qu'ils allaient vivre sur le chemin, ils l'ont vécu. Et franchement, c'était quelque chose le soir, hein, quand ils me l'ont dit. Donc c'est j'ai mis après là, ça nous rappelle donc Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, ça c'est pour mon témoignage.
Alors moi j'ai eu le détail de ce témoignage et c'est effectivement impressionnant ce que Dieu a fait lors de ce moment d'évangélisation. Voilà, nous allons passer à la louange. Je cède la parole au groupe.
Je vais juste vous lire un passage, un verset, qui dit « Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » Je vous invite ce matin à vous lever pour pouvoir chanter et louer notre Dieu, qu'on puisse monter un parfum de louange à notre Dieu. Et en étant unis ensemble, et c'est ce qui est magnifique, c'est de savoir que ouais, Dieu, il vous voit, il nous voit en train de monter cette louange en son honneur. Je vous invite à chanter avec toi tous ensemble.
Thank you.
bénir son saint nom. Je veux te remercier, te louer pour qui tu es chaque instant. Malgré que, oui, on n'est pas toute notre vie sur cette terre, un moment viendra où j'aurai plus de force. Mais ce n'est pas ça qui va me décourager à me dire que je vais te le louer, te bénir pour qui tu es. Et je vais encore le proclamer que tu es un grand Dieu et que tu es digne de louange.
Toute la terre, Dieu, tu es.
proclame aussi qu'il est vainqueur sur les ténèbres et la mort, qu'il a brisé toutes nos chaînes. Qu'on puisse prendre ce chant de Hallelujah, que ça va nous un peu réveiller un petit peu, mais qu'on puisse encore le proclamer pour ce dernier chant. Je crois qu'il y a de la joie dans le ciel aussi en ce moment. Amen. Soyez bénis.
Voilà, merci à l'équipe de louanges. Nous invitons les enfants à rejoindre leur groupe et à descendre avec leurs moniteurs et monitrices.
J'aimerais prier avec vous pour les enfants et puis les moniteurs et monitrices. Seigneur notre Dieu, on te remercie du fond du cœur pour les enfants que tu nous prêtes. Merci pour leur vie précieuse pour toi. Nous aimerions, Seigneur, qu'ils apprennent à te connaître et à t'aimer. Et nous aimerions que nous qui avons quelques kilomètres au compteur avec toi, nous soyons pour ces enfants, des encouragements. J'aimerais te demander, dans le nom de Jésus, de conduire et de renouveler les moniteurs et monitrices des potes du dimanche. Merci pour leur service. Merci de les encourager. Merci de les accompagner dans ce qu'ils vont partager ce matin en particulier. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances. Dans quelques instants, mes amis vont lire le texte biblique qui nous servira de base à la méditation de ce matin. Nous reprenons, en tout cas pour la part qui m'appartient, notre survol du livre des Actes que nous poursuivrons au fur et à mesure des dimanches, en tout cas lorsque je prêcherai. Si on pose la question, pourquoi Luc a-t-il écrit le livre des Actes des apôtres ? Si on pose cette question, comment ça se fait qu'on ait ce bouquin dans nos Bibles ? Je pense qu'on peut recevoir plusieurs réponses. La plus évidente, c'est que Luc a voulu faire œuvre d'historien en racontant comment l'Évangile s'est répandu de Jérusalem à Rome. Et puis, il a certainement voulu encourager les églises naissantes en montrant à ces jeunes églises comment l'Esprit de Dieu lui-même a été à l'œuvre dans les églises. Et puis, il raconte aussi nombre d'événements, des petits, des grands, qui, à mon sens, ont valeur d'exemple pour les chrétiens, jusqu'à nous, aujourd'hui, valeur d'exemple. Et c'est sous cet angle-là que j'aimerais méditer avec vous ce matin, acte 4, en nous posant la question suivante, comment témoigner quand c'est compliqué ? Comment témoigner quand c'est compliqué ? Au Café du Molard, dans un camp de ski, un service Pâques, mais pas que. Comment on peut faire, nous, simples chrétiens, pour témoigner ? Et comment témoigner quand c'est compliqué ? Et j'en parle humblement, sachant qu'il y en a ici ce matin, dans cette salle, qui pourraient mieux le faire que moi. Alors, je nous rappelle en deux mots le contexte, puis on fera la lecture. En acte 2, suite à la mort et à la résurrection de Jésus, l'Esprit Saint a été donné aux disciples. C'est la Pentecôte. De suite après, acte 3, les voilà qui témoignent de Jésus-Christ. Et les disciples accomplissent un miracle extraordinaire qu'on a mis en scène vendredi soir avec les jeunes du Caté. C'est juste une mise en scène, on ne l'a pas fait vraiment, hein. Un miracle extraordinaire en guérissant un homme paralysé des jambes depuis 40 ans. 40 ans. Et devant la foule ébahie, ils expliquent alors que c'est l'autorité de Jésus qui leur a permis d'accomplir ce miracle. Et ils invitent ceux et celles qui ont réclamé la mort de Jésus à se détourner de leur faute et à reconnaître Jésus comme Seigneur. Et voilà que ce premier discours du livre des Actes ne plaît pas à tout le monde. Et c'est là que nous reprenons l'histoire.
Alors c'est dans acte 4, à partir du verset 1 jusqu'au 31. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand les prêtres et les commandants du peuple et les Sadducéens les abordèrent. Ils étaient excédés de les voir instruire le peuple et annoncer dans ce cas la présence de Jésus, la résurrection des morts. Ils les firent appréhender et mettre en prison jusqu'au lendemain, car le soir était déjà venu. Parmi les auditeurs de la parole, beaucoup étaient devenus croyants. Leur nombre s'élevait à environ 5000 hommes. C'est dans le lendemain que s'assemblèrent les chefs, les anciens et les scribes, qui se trouvait à Jérusalem. Il y avait Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres des familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean devant eux et procédèrent à leur interrogatoire.
À quelle puissance ou à quel nom avez-vous eu recours pour faire cela ? Rempli d'Esprit Saint, Pierre leur dit alors: chefs du peuple et anciens, nous sommes aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, de dire par quel moyen cet homme se trouve sauvé. Sachez-le donc, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là, devant vous, guéri. C'est lui, la pierre que vous, les bâtisseurs, aviez mise au rebut. Elle est devenue la pierre angulaire. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui, car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes, qui soit nécessaire à notre salut. Ils constataient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction et de gens quelconques. Ils en étaient étonnés et reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Ils regardaient l'homme qui se tenait près d'eux, guéri, et ils ne trouvaient pas de riposte.
Ils donnèrent donc l'ordre de les faire sortir du Sanhédrin et ils les délibérèrent. Le Sanhédrin, c'est le conseil de l'époque. Qu'allons-nous faire de ces gens-là, se disait-il. En effet, ils sont bien les auteurs d'un miracle évident. La chose est manifeste pour toute la population de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Néanmoins, il faut en limiter les suites parmi le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne mentionnent plus ce nom devant qui que ce soit. Ils les firent alors rappeler et leur interdirent formellement de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus.
Mais Pierre et Jean leur répliquèrent : Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu ? Vous écoutez ou l'écoutez-lui ? À vous d'en décider. Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. Sur des menaces renouvelées, on les relâcha, faute d'avoir trouvé moyen de les condamner. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu de ce qui s'était passé. L'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse avait en effet plus de 40 ans.
Une fois relâchés, Pierre et Jean rejoignirent leurs compagnons et leur racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. On les écouta, puis tous unanimes s'adressèrent à Dieu en ces termes. « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as mis par l'Esprit Saint ces paroles dans la bouche de notre Père David, ton serviteur. Pourquoi donc ces grandements des nations et ces vaines entreprises des peuples ? Les rois de la terre se sont rapprochés et les chefs se sont assemblés pour ne faire plus qu'un contre le Seigneur et contre son roi. »
Oui, ils se sont vraiment assemblés en cette ville. Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël, contre Jésus, ton saint serviteur que tu avais oint. Ils ont aussi réalisé tous les desseins que ta main et ta volonté avaient établis. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends donc la main, pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. À la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu.
C'est dense, hein ? Ça vaut le coup des fois de lire un chapitre en entier pour se faire une idée d'un récit complet. Acte 4, 1 à 31 donc. Comment témoigner quand c'est compliqué ? Bien évidemment, nous ne sommes pas, nous, dans la même situation que Pierre et Jean. Je vais vous avouer quelque chose, je ne suis pas très doué pour les miracles. Je n'ai jamais connu la prison, ni même la garde à vue, même pas la cellule de dégrisement. En 2019, en Suisse, à Meyrin, je ne risque pas d'être traîné comme eux devant un tribunal religieux. Et puis, je ne suis pas un apôtre au sens premier du terme. J'ai jamais vu Jésus, j'ai jamais été avec lui. Mais je suis chrétien. Je suis chrétien. Et de ce fait-là, par ma simple présence dans le monde, je suis témoin de Christ. Parce que je suis chrétien. Comment mettre des mots sur ce que j'ai compris ? Comment mettre des mots sur ce que j'ai vécu ? Comment résister à ces pressions qui voudraient que je me taise ? Comment ne pas me décourager ? Je pense que nous serons d'accord pour dire que la vie en démocratie demande que personne ne profite de sa position pour faire de la propagande religieuse ou politique. Ni les enseignants, ni le personnel hospitalier, ni le personnel municipal. Personne ne doit profiter de sa position pour faire de la propagande religieuse ou politique. Que personne ne vienne m'annoncer la charia sur mon lit d'hôpital. Qu'on laisse mes enfants tranquilles à l'école ou au jardin Robinson. Qu'on ne profite pas de mon dénuement ou de mes privilèges pour me faire prendre la carte de tel ou tel parti. La loi de la réciprocité dans une démocratie veut que les chrétiens se taisent dans certaines situations. Et c'est normal. Mais il y a d'autres circonstances où nous pouvons penser que notre liberté d'expression est menacée, que la pensée majoritaire cherche à nous étouffer. Et c'est dans ce contexte que ce texte des Actes, à mon sens, peut nous aider. En tout cas, j'y trouve des parallèles. Moi, j'en ai listé trois que j'aimerais vous partager. Le premier parallèle, il va peut-être vous surprendre. C'est la guérison de l'infirme. Je ne dis pas que nous devrions nous efforcer de produire des miracles avant de témoigner, mais je retiens que ici, quelque chose s'est passé qui a servi de facteur déclenchant pour le témoignage des apôtres. Et ce qui s'est passé, c'est la guérison d'un infirme. Les apôtres sont en train de faire ce qu'ils font souvent, à savoir aller au temple pour prier, chapitre 3, verset 1. Puis les gens sont prêts à entendre ce que les apôtres ont à dire. Et entre la montée au temple et le discours des apôtres, eh bien, il y a le miracle, verset 7 du chapitre 3. Et c'est ce qui déclenche la curiosité de leur auditoire. Ce qui déclenche la curiosité du monde qui les entoure, c'est le miracle. Un homme paralysé des jambes depuis plus de 40 ans, qui d'un coup, d'un seul, est mis debout et saute de joie, nous dit le texte. Ce qui déclenche la curiosité, ce qui déclenche l'intérêt, ce qui donne l'occasion de parler, c'est un miracle. Un facteur déclenchant. Quels pourraient être pour nous aujourd'hui des facteurs déclenchants? Un miracle pareil, bien sûr, s'il plaît à Dieu d'en donner. D'autres réponses à la prière. J'estime que l'aboutissement du projet Chapelle, dans une certaine mesure, c'est une réponse à nos prières. Il y a quelques années, j'ai été sérieusement malade. Et j'ai pu parler de la mort avec quelques personnes. Je n'aurais pas pu le faire si j'avais été en bonne santé. C'est la maladie qui, à un moment donné, a donné l'occasion de parler, un facteur déclenchant. Une création artistique donnera à son auteur la possibilité d'expliquer le sens qu'il lui donne, un facteur déclenchant. Un événement dans l'actualité, des questions éthiques ou sociétales, le fanatisme religieux, ça suscitera parfois du débat, un facteur déclenchant. Par exemple, la loi sur la laïcité, sur laquelle nous serons appelés à nous prononcer le 10 février prochain, ça peut être dans nos conversations un facteur déclenchant. Si nous sommes attentifs, je suis convaincu qu'il y aura des opportunités pour introduire peut-être, ici ou là, un petit élément de témoignage. Jésus nous a dit de prier pour nos ennemis, pas de les massacrer. Si vous êtes comme moi, c'est le genre de réplique qu'on trouve toujours 10 minutes après coup. J'ai besoin de progresser. Sur les facteurs déclenchants, juste une mise en garde en passant. Il est arrivé que des profs, des travailleurs sociaux ou des policiers soient mis en confiance par des collègues, puis amenés à dire le fond de leurs pensées sur des sujets d'actualité, comme l'islam ou le mariage pour tous. Les collègues les ont ensuite dénoncés à la presse ou à leurs supérieurs hiérarchiques, avec à la clé parfois de gros soucis, la perte d'un emploi même. ils ont été piégés. On a aussi essayé de piéger Jésus. Je fais partie de ceux qui pensent que nous pouvons être très libres en famille ou avec des amis, des voisins. Mais dans le milieu du travail, à mon humble avis, il faut une certaine prudence. Jésus a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Il y a des lieux où il nous faut adopter une posture prudente. Facteur déclenchant, premier parallèle. Un deuxième parallèle, des témoins prêts à parler. Je vois dans ces apôtres, dans ces disciples, des témoins qui sont prêts à parler. Je trouve assez touchant ce que disent les autorités à leur sujet au verset 13. Ils sont, disent-ils, sans instruction. C'est-à-dire qu'ils sont sans instruction théologique. Ils savent lire, ils savent écrire, ils savent compter. Ils comptent les poissons, par exemple. Mais ils n'ont pas fait d'école biblique. Ils n'ont pas fait de fac de théo. Ils n'ont pas passé du temps au pied d'un rabbin reconnu ou d'un prof émérite. Ils ont été avec Jésus. Ils ont juste été avec Jésus. Et ils peuvent donc parler avec assurance, verset 20, de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils peuvent citer les textes bibliques que Jésus leur a montrés. Leur caractère s'est affermi au contact de Jésus. Ils peuvent imiter Jésus dans sa façon de parler en public, ou de gérer les foules, ou de faire face à ses contradicteurs. Ils ont été avec lui pendant 3 ans. En un mot, ils sont prêts à parler parce qu'ils ont passé du temps avec Jésus. Parce qu'ils le connaissent. Parce qu'ils l'aiment. Et c'est ensuite qu'ils donnent une explication qui met Jésus en avant. Versets 10 à 12. Connaissent Jésus, ils parlent de Jésus. Et parfois, je serais tenté de dire que c'était plus facile pour eux que pour nous. Enfin, peut-être. Leur public, c'était un public croyant. Ils parlaient le même vocabulaire. Le nôtre ne l'est généralement plus, croyant. Mais les disciples, ils avaient aussi en tête le sort qui avait été réservé à Jésus. Ils savaient bien que leur message n'allait pas plaire. Ils auraient pu faire de l'autocensure. Mais non, ils ont parlé quand même. Ils ont parlé quand même. Ce sont des témoins donc de conditions modestes, tout simples, mais qui ne se laissent pas intimider ni par la foule, ni par les gros bonnets qui vont les interroger ensuite. Est-ce qu'il faut dire que ses premiers disciples étaient plus déterminés que nous? Est-ce qu'il faut dire qu'ils étaient plus courageux que nous? Peut-être. Plus courageux que moi, en tout cas. Il y a encore autre chose dans notre texte, au verset 8, au verset 31. Ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Une deuxième fois. Après la Pentecôte. Ça, c'est une dimension qui nous échappe. Vous savez, c'est l'action souveraine de Dieu qui nous booste, qui nous pousse, qui nous inspire. Dieu qui est comme derrière nous en train de donner le coup d'épaule. Allez, vas-y, tu peux le faire. Tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Et je pense que plusieurs d'entre nous gardent le souvenir d'occasions comme ça, justement parce qu'elles étaient exceptionnelles. Dieu qui nous booste. Le mot qu'on disait tombe pile. On voudrait que ce soit à chaque fois pareil. Puis ça ne vient pas toujours. Si on ne peut pas forcer la main de Dieu, je pense qu'on peut au moins être ouvert à son action. Par la prière, par une vie où se manifestent les fruits de l'esprit, et puis en ayant aussi une certaine surface de contact avec la société. Si les chrétiens restent dans leurs bocaux, c'est dramatique, il n'y a pas de surface de contact. Et puis, il y a quelque chose qui donne une certaine urgence au témoignage des disciples ici. C'est ce qu'ils disent au verset 12. il n'y a pas d'autre voie de salut que Jésus. Il n'y a pas de salut ailleurs qu'en lui. Et de nos jours, cela sonne incroyablement intolérant. Incroyablement intolérant. Il n'y a pas d'autre salut que Jésus. De nos jours, ça sonne intolérant. Je pense que ça ne pouvait pas sonner plus agréable à l'époque. Mais les disciples ne sont pas en train d'ériger leur vérité en vérité absolue. Ils sont juste en train de redire avec d'autres mots ce que Jésus lui-même avait dit. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Ce qui me touche ici, c'est de voir qu'un témoin fidèle ne déforme pas ce qu'il a entendu. Les disciples ne déforment pas ce qu'ils ont entendu. Ils ne disent pas qu'ils détiennent, eux, toute la vérité. Ils ne disent pas qu'il n'y a aucune parcelle de vérité ailleurs. Ils disent simplement que Jésus est unique comme révélation de Dieu et comme voie d'accès à Dieu. Qu'on ne peut pas le contourner si on veut être sauvé. Qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'être. Le débat ici, devant les questions d'intolérance, ce n'est pas, à mon sens, est-ce que les disciples, est-ce que ces chrétiens sont intolérants ou pas. Pour moi, la vraie question, le vrai débat, c'est Jésus est-il ce qu'il dit être ? Jésus est-il ce qu'il dit être ? Si Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, la seule voie d'accès à Dieu, soit c'est vrai et il nous faut baisser les armes, soit c'est faux et sérieusement changer de crèmerie. Changer de crèmerie. Mais si c'est vrai, si c'est vrai, il faut prendre ça au sérieux. Les disciples ne sont donc pas des témoins prêts à parler seulement. Ils sont déterminés à parler. Ils veulent le dire. On veut les faire taire dans notre texte, on les menace. Eh bien, ils estiment qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Peut-être un des rares motifs de conscience quand il s'agirait de désobéir à des autorités. S'il s'agit d'obéir à Dieu, il faut le faire plutôt que d'obéir aux hommes. Tout comme bien des chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, qui refusent de taire le nom de Jésus-Christ. Des témoins prêts à parler, donc. Des témoins résolus à parler. Et après. Eh bien, après ça, ces témoins ne sont pas seuls. Bien sûr que devant la foule ébahie, devant les autorités religieuses sévères, il n'y a que Pierre et Jean, c'est vrai. Mais les chapitres précédents nous font comprendre que Pierre et Jean font partie de toute une communauté. D'abord 12, puis 120, puis 3000, puis 5000, verset 4. 5000 personnes unies dans le même témoignage. Cette communauté, c'est l'Église. Mon petit témoignage à moi, mes petites hésitations à moi, mes doutes, ma façon hésitante de dire les choses, quand je bute sur les mots, sur les idées, tout ça, c'est renforcé par le témoignage de l'Église. Je suis pas seul. Et on retrouve ça encore à la fin de ce passage-là, la force de la communauté. Et ce que Luc souligne là, c'est que l'Église prie. L'Église prend connaissance de la situation est compliquée, et l'Église prie. Elle prie Dieu. Comment le fait-elle ? Eh bien, d'abord, elle le fait dans l'unité. C'est une valeur chrétienne que Luc a déjà soulignée dans les chapitres précédents. C'est une valeur chrétienne que Luc va souligner tout au long du livre des Actes. Jésus lui-même a insisté là-dessus. Les chrétiens, vous êtes un. Concrètement, cela veut dire que les chrétiens sont en communion les uns avec les autres et qu'ils sont d'accord sur leur sujet de prière. Il y a de la diversité parmi nous. Gloire à Dieu. Mais quand il s'agit d'invoquer le nom du Seigneur, nous sommes un. C'est une valeur qu'on veut développer, hein, à Mérin. Dans l'amour fraternel, dans une orientation commune, pour le royaume de Dieu, pour l'action œcuménique, pour l'Église persécutée, pour la mission, pour les aînés, pour les enfants, pour les jeunes, pour des conversions, pour la rénovation de la chapelle. Nous voulons prier ensemble, d'un même cœur, en cultivant des relations fortes, en portant tout simplement devant Dieu nos projets, nos défis, nos soucis. Je remarque enfin au verset 24 et suivant que tout ce monde prie en étant fortement convaincu de la souveraineté de Dieu. Vous relirez ce chapitre chez vous. Ils utilisent des textes de l'Ancien Testament. Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dieu s'est exprimé dans les pages de la Bible. Dieu a décidé d'avance que Jésus serait mis à mort par les puissants de ce monde. Dieu a guéri ce fameux paralytique. Il est souverain. Il est aux commandes. Il n'est jamais dépassé. On peut le prier avec confiance. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est aux commandes. Est-ce qu'il prie pour que désormais les chrétiens soient protégés? Est-ce qu'il prie pour que maintenant, stop les persécutions, c'est bon, on a déjà une autre dose? Ils auraient pu demander ça, ils auraient pu. Mais ils demandent à Dieu de prendre en compte les menaces qui pèsent sur eux, verset 29. Seigneur, prends en compte les menaces qui pèsent sur nous. Et il prie surtout pour avoir la force d'annoncer la parole de Dieu avec de l'assurance, comme certains chrétiens au Nigeria ou en Corée du Nord de nos jours. Les apôtres, ils seront à la pointe de l'évangélisation. Mais tous les chrétiens seront témoins. Et ils demandent à Dieu d'accompagner leur témoignage par des signes miraculeux. Je pense qu'on a le droit d'en faire autant. Demander à Dieu d'accompagner notre témoignage par des signes miraculeux. À ce moment-là, il n'y a d'église qu'à Jérusalem. Il n'y a d'annonce de l'évangile qu'à Jérusalem. Nous sommes donc à un moment charnière de l'histoire humaine. Parce que là, si les chrétiens se taisent, il n'y a plus rien après. Là, si les chrétiens se taisent, ni vous ni moi ne serions chrétiens ce matin. La réponse à leur prière, elle est donc spectaculaire. Un tremblement de terre, verset 31. Une mini Pentecôte. Et les voilà encore une fois remplis du Saint-Esprit. Et surtout, ils obtiennent une réponse précise à une prière précise. Ils avaient demandé de pouvoir annoncer la parole de Dieu et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite de notre survol. Il est temps de conclure. Dans ma préparation cette semaine, il m'a semblé que ce chapitre, pour moi, était un peu culpabilisant. Moi, j'aime bien l'Église. C'est plutôt un point en ma faveur. Mais je me trouve franchement assez médiocre comme témoin. Je suis pas très fort pour la prière. Je suis nul pour les miracles. Si c'est par ma puissance ou par ma foi que les choses doivent se faire, je vous dis franchement, on est mal barré. Je me sens tellement petit. Mais la parole de Dieu, elle n'a pas été donnée pour nous enfermer dans un sentiment d'infériorité. La parole de Dieu, ce récit du livre des Actes, il est là pour nous tirer en avant. C'est ce que je veux retenir. Même quand les circonstances sont compliquées, il y a des espaces pour le témoignage. On peut prier. On peut prier en église. On peut annoncer l'évangile avec assurance et peut-être voir des gens venir au Christ. Ok, ça ne se passe pas facilement. Eh bien, raison plus pour prier. Que Dieu nous y aide. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Je demande à Dieu que ce soit notre expérience à Mérin. Parle. Ne te tais point. Il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Et c'est mon vœu pour 2019, pour notre Église, pour nous, comme témoins. Amen.
À la Sainte Seine. Donc, en prenant la Sainte Seine, nous rappelons que le Christ et le Saint-Esprit sont en nous. Ceci nous rassure et nous rappelle la confiance que nous avons déposée en lui. Jésus-Christ nous est apparu comme le Fils de Dieu. Il est né d'une femme et a fait de nous ses frères et sœurs, ici et dans les cieux. Par son sacrifice, le Christ a pris sur lui tous nos péchés. Nous prenons le pain et le vin pour nous en souvenir, comme il nous le dit en Matthieu 26 à 29. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis, le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez ceci et mon corps. » Puis il prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Seigneur notre Dieu, ce geste que nous commémorons semaine après semaine nous rappelle ce qu'il y a au cœur de Dieu. Merci pour notre salut. Merci pour la vie de Jésus. Merci pour notre rachat. Merci pour la perspective de prendre un jour ce repas avec toi. Merci pour ce pain et ce vin, symbole de ton corps brisé, de ton sang versé. Qu'ils viennent nous fortifier, Seigneur, nous nourrir, raviver nos racines. Que tu sois béni pour ce temps précieux que nous pouvons avoir autour de la table. Amen.
Voilà, nous invitons, ça marche, nous vous invitons donc à partager ce pain et ce vin, et il faudrait 3 personnes pour nous donner un coup de main pour les questions pratiques. Merci beaucoup. Alors, je rappelle qu'au centre des plats, ou je ne sais pas comment on appelle ça, au centre vous avez des coupelles avec du vin sans alcool, du jus de raisin, et autour c'est du vin. Et ceux qui désirent partager la coupe sont invités à lever la main et ils recevront la coupe. Pendant ce temps, je vous invite également à prier. Avec ce qu'on a entendu, on voit la puissance du Christ, la puissance du Saint-Esprit au milieu des premiers chrétiens. Et cette puissance est toujours actuelle aujourd'hui. Elle se manifeste aussi. Et nous pouvons vraiment prendre du temps pour remercier Dieu de tout ce qu'il fait encore aujourd'hui et de sa puissance. Et prier également pour que nous ayons la force de témoigner quand les occasions se présentent. Oui, Seigneur, tu es tout-puissant, tu agis encore aujourd'hui, ton esprit est le même qu'à l'époque, et il est tout-puissant, soit pour faire des miracles, soit pour convaincre, soit pour visiter. Merci, Seigneur, parce que tu es le même éternellement. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, aujourd'hui, il y en a qui sont prêts à perdre leur liberté et même leur vie pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous, pour l'instant, on ne risque rien. Alors, Seigneur, je te demande de nous relever, de nous remplir de ton Saint-Esprit pour que ça déborde et que ça éclabousse tous ceux qui nous entourent. Seigneur,
nous te
demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen. Seigneur, il est vrai qu'on ne voit plus beaucoup, du moins dans l'attitude, des grands miracles tels que nous l'avons entendu tout à l'heure. Mais en revanche, tu nous as donné, Seigneur, d'autres moyens de pouvoir témoigner puissamment auprès de nos
près de nos voisins, près de nos familles notamment. Seigneur, tu nous as donné ta parole. Nous l'avons entendu ce matin. Tu nous as donné aussi des moyens de communication tels de, des livres ou des émissions à la télé ou à la radio où nous pouvons être encouragés et dont nous pouvons encourager aussi les autres. Seigneur, merci, je te loue pour tous ces moyens de communication que tu nous as donnés. Que nous puissions en profiter, que nous puissions les utiliser en bon escient. Que ton esprit surtout nous accompagne dans notre vie.
Amen. Amen. Nous prierons encore. Merci Seigneur pour ce pain, pour ce vin que nous pouvons partager dans une grande liberté. Nous voulons penser à tous ceux qui sont dans des difficultés moyennes, voire fortes, dans certains pays où les églises sont brûlées, où les gens sont persécutés, sont chassés de leur village, sont brûlés. Nous te remettons tous ces endroits où c'est difficile et nous te prions de visiter les chrétiens partout dans le monde, de les encourager et par ton esprit de leur donner la force de tenir, de témoigner, de visiter les autres. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Nous allons passer à l'offrande en chantant le 570 « Entends mon cœur ». Là, vous pouvez vous asseoir, on va entendre deux témoignages et partages. Mais avant, je vais laisser Zéna prier.
Voilà, on va prier pour l'offrande. Ah, Seigneur Dieu, nous te prions de bénir, pour l'honneur de ton nom et le service de ton Église, cette offrande qui est une part de ce que nous tenons de ta main et que nous déposons devant toi avec reconnaissance et joie. Amen.
Alors, je voudrais passer la parole à deux personnes. D'abord à Jean-Yves qui voulait nous partager quelque chose vécu au niveau des jeûnes.
Donc juste pour rappeler que vendredi soir, on est avec les jeunes et on essaye d'avoir un suivi cette année entre le caté et la prédication. Donc c'est un double challenge pour notre pasteur parce qu'il faut être cohérent dans les deux séances. Ça allait très bien. Lors de notre séance ce vendredi, nous avons parlé donc de témoignages et c'était très intéressant parce que deux de nos jeunes étaient le samedi matin à la distribution des gâteaux dans la ville de Merin. Vous vous rappelez, c'était le 14 décembre. Et ils sont revenus, je dirais, presque choqués. Ils n'ont pu atteindre quasiment personne, tout le monde s'éloignait autour d'eux, ils n'ont pas pu distribuer un tract, nous ont-ils dit, et à leurs collègues qui étaient là, les huit autres jeunes. Et c'était une souffrance pour eux. Et ils se sont dit, il y en a même une qui a dit, mais le cadeau de Dieu est gratuit. Nous, on avait des gâteaux gratuits et personne n'en voulait. c'est un réel challenge. Et donc, dans cette dynamique-là, on a eu un très très bon moment de prière pour s'encourager. Chacun a pu exprimer à voix haute ou à voix basse, à encourager son voisin, d'annoncer aussi et de témoigner. Et je crois qu'à tout âge, c'est très riche ces témoignages. Donc, je voulais le partager ce matin, puisque nous sommes adultes, mais il y a beaucoup de jeunes qui portent ça et vraiment dans leur cœur. Et c'était très très fort vendredi. Et ça, c'est vraiment troublant pour notre communauté, enfin la ville de Mérin, les gens. La rue n'est plus un lieu facile, c'est même un lieu hostile. D'ailleurs, si on se pose la question, est-ce que nous, on se laisserait approcher par quelqu'un qui nous donnerait un paquet de gâteaux gratuits? Je ne suis pas sûr. Merci.
Je demandais à Xavier de passer. Je ne sais pas où il est passé. Et il est là. Alors, je te cède la parole. Va nous donner un peu un écho de son école de louange.
Voilà. Ça fait quelque temps que ça me tourne dans la tête qu'il faut que je vous partage quand même un petit peu ce que j'ai vécu un peu l'année passée, en sachant que peut-être il y en a qui savent, mais ou pas. J'aimerais donc vous faire partager les projets aussi futurs. Pour rappeler, j'ai suivi donc l'école de louange avec Jeunesse en mission à Burtigny. L'été dernier. Durant cette école, nous avons des enseignements tous les matins avec divers intervenants. Les thèmes abordés étaient principalement autour de la louange, bien sûr, dans ce que dit la Bible, quelle est son importance, et puis aussi autour de l'adoration. Mais aussi l'histoire de la Bible, de l'Église, pardon, et comprendre et connaître le cœur du Père, la place du Saint-Esprit aussi. Il y avait aussi des thèmes plus pratiques, qui est comme le leadership. Donc être devant, comme là maintenant, c'est toujours un défi. Sur la sono, sur la prise donc, de parole en public, qui est un gros défi encore pour moi. Les après-midi étaient consacrés surtout à la pratique musicale, donc la composition, donc ça c'était génial parce que voilà, on était autour d'un piano, où on essayait d'ouvrir la Bible et c'était là, allez, on essayait de composer une musique. On avait des cours de solfège qui étaient sympas. Il faut se remettre dans le bain, et des cours de chant. Donc ça m'a permis de grandir dans ma foi, dans ma relation avec Dieu, de le connaître plus, de ma compréhension de ce qu'est vraiment la louange. J'ai pu m'exercer à composer, donc à l'idée des temps de louange et à travailler en équipe. Et donc après l'école, et durant les mois qui ont suivi, j'ai pu participer à différents temps de louange dans la région, puis j'ai pu co-animer un atelier de louange lors d'un stage artistique de psalmodia à Gagnères. Peut-être certains en connaissent. Et là, on a pu profiter aussi d'être en famille. Donc, c'était chouette de voir ma femme et mon petit dans ce stage, qui ont pu aussi vivre des temps forts. Cela m'a permis de transmettre ce que j'avais aussi appris. J'ai eu l'opportunité d'accompagner à la trompette les temps de louange là-bas. Et c'était des moments très forts. Laure aussi, là, je précise un truc, c'est qu'il y avait le groupe EXO, qui était, donc, tout le monde connaît normalement, et qui m'ont proposé de jouer avec eux. Et là, j'étais un peu très mal à l'aise, mais je ne pouvais pas refuser. C'est un groupe qui m'a porté et qui ont porté la francophonie. Voilà. Et c'était une petite fierté. Donc, des portes se sont ouvertes pour la suite. Je suis convaincu que Dieu m'appelle dans le ministère de la louange. Je vais pouvoir faire partie de l'équipe d'encadrement l'année prochaine. Donc, elle va commencer au mois d'avril, là, cette année. Donc, cela fait depuis le mois d'octobre que nous voyons avec le directeur pour préparer. Donc, l'école comprend 3 mois de phase théorique et 8 semaines de phase pratique. Nous sommes en réflexion pour la phase pratique. C'est toujours un gros défi parce que c'est une phase qui n'est pas obligatoire. Et on essaie quand même de motiver les étudiants à la faire. Mais voilà, c'est aussi un défi aussi familial, encore une fois. On m'a également proposé de rejoindre un département de jeunesse en mission musique. Donc c'est encore en réflexion et en prière. Entre-temps, j'ai eu l'opportunité de retourner donc, chez mon patron, mon ancien employeur. Ça, c'est un sacré cadeau. Parce que voilà, j'ai fini mon école et il fallait que je retrouve un petit peu des finances. Et j'ai retéléphoné le vendredi, le lundi, je retravaillais. Donc c'est une bénédiction pour nous. Et voilà, c'était juste un petit résumé, mais j'ai vraiment envie de vous remercier en tant qu'Église pour le soutien que vous nous avez fait, que ce soit financièrement, je sais qu'il y en a qui nous l'ont fait. Merci à l'Église aussi qui nous ont soutenus, merci au Conseil aussi. Merci pour les prières qui ont été derrière. Et voilà. on est vraiment reconnaissant parce que cette année vraiment bénie avec plein de défis personnels aussi, de santé, de tout quoi. Puis les finances, c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'important. Mais on était gâtés quoi. Et les petits cadeaux qu'on m'a fait aussi, que ce soit des orateurs, comme j'ai dit, Exo qui m'ont proposé. C'est toutes des petites perles quoi, qui viennent et ça me met en confiance pour l'année prochaine. Et nous met en confiance pour l'année prochaine, malgré que c'est un défi. Donc voilà. Pardon. Mon bras. Ça, je pensais bien que ça allait me. Ouais, c'est bien, c'est officiel comme ça. Je me suis simplement luxé l'épaule. Voilà. Non, c'est pas celle que j'ai mal. Non, c'est l'autre. Donc c'est mieux, c'est bien. Donc j'ai les deux bras en panne.
Allô, ça marche? J'ai demandé à Thierry de venir prier aussi dans un sens d'accompagnement de la part de l'Église. Thierry Terra, qui connaît bien Jem aussi, de prier pour Xavier.
Mais je voulais juste aussi rajouter, merci pour vos prières encore. Et si vous avez plus envie d'informations, je suis volontiers là. Peut-être pas ce dimanche parce qu'on doit partir assez rapidement. Mais par mail, par téléphone, ce que vous voulez. L'école aussi, elle est ouverte au public. Ça, j'avais envie de vous préciser. Si vous avez envie de faire une semaine pour rejoindre l'école, puis vivre une semaine intense, les portes, elles sont ouvertes. Quoi. Donc, venez vers moi. Et c'est vraiment enrichissant quoi, de vivre une semaine avec un orateur et puis qui ont de l'expérience. Et puis, ça peut aussi vous faire ouvrir aussi vos connaissances, quoi. Voilà.
Oui. Voilà. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, il est écrit que l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Donc, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Et j'aimerais vous inviter à prier ça pour Xavier, pour sa famille. C'est vrai qu'ils ont vécu pas mal de changements. Hein. C'est une saison différente de ce qu'ils ont vécu ces dernières années. Il y a pas mal de points d'interrogation. Il y a des envies, il y a des projets, il y a des choses qui sont là dans le cœur. Mais on a vraiment besoin de prier pour que Dieu les aide à discerner et puis qu'il les guide pour qu'ils puissent rester et entrer dans vraiment ce qu'il a prévu pour eux. Alors, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette saison dans laquelle ils sont entrés en famille, même si c'est Xavier principalement qui a suivi cette école, qui s'est formé. Je te remercie pour tout ce qu'il a pu apprendre de toi, tout ce qu'il a pu vivre. Et je te prie que tu continues à le guider et à les guider en tant que famille, à discerner vraiment quelle est ta volonté pour eux. Je prie que tu écartes toute crainte humaine ou qui viendrait de l'ennemi par rapport à l'avenir, par rapport aux finances, tout ce dont ils ont besoin pour rentrer dans ces rêves-là. Seigneur, on sait que si c'est ta volonté, eh bien tu pourvoiras à tous ces besoins-là. Alors merci vraiment de rendre ta volonté claire et limpide pour eux en tant que famille, qu'ils puissent rentrer dans ces projets avec joie, avec assurance, que tu vas pourvoir et que tu vas être avec eux. Merci de l'encourager aussi dans toutes les choses qu'il apprend, dans ses, les choses où il est encore inconfortable, Seigneur. Merci parce qu'il va grandir encore avec toi s'il marche après toi. Amen.
Merci.
J'étais un peu comme toi il y a longtemps. Je n'étais pas très à l'aise devant un micro et maintenant ça va beaucoup mieux. Donc ça s'apprend.
Amen. Merci pour cette prière. Voilà, nous allons passer aux annonces. Moi, j'ai aussi des petites annonces. Il y a dans l'église deux personnes qui ont des cheveux gris et qui réfléchissent beaucoup et qui font des jolis dessins. Et si vous allez chercher sur BibleTube ou sur YouTube simplement, vous verrez toute une vidéo avec un commentaire également sur comment parler à ses concitoyens sans les agresser, comment partager sa foi. Et vous verrez que ce n'est pas une chose aussi simple. Au siècle de la communication, où il y a des écoles de communication, effectivement, on apprend comment parler pour que les gens reçoivent ce qui est dit. Et ce n'est pas du tout évident, simplement, de témoigner dans la rue comme ça. Donc, écoutez cette vidéo, regardez-la, vous la trouverez sur Google. Et un deuxième thème dont je voulais parler une fois, c'est une conférence qui a eu lieu par monsieur le docteur Raymond Bossy sur les médecines parallèles. C'est un tout autre domaine. Cette conférence a eu lieu à l'église de Colonie. Personnellement, je n'ai pas pu y aller, mais j'ai demandé le lien Internet qui permet d'écouter cette vidéo. C'est une vidéo et du son, évidemment. Et je vous encourage aussi, ceux qui s'intéressent, d'aller écouter sur le site de Mérin. Il y a l'indication ici, c'est un peu long à retrouver, le site de Colonie, pardon. Et je vous encourage à écouter cette interview qui est extrêmement intéressante.
Alors, pour les annonces, il y en a quelques-unes. Le nouveau mémo qui est disponible donc, sur le site Internet, toujours au même endroit. Ensuite, mercredi, lecture divina à la chapelle entre 18h et 19h. Mardi 5 février, fil d'argent avec Guy Gentison qui retrace le parcours de la reine de Saba, ou en tout cas la partie des hauts plateaux du nord de l'Éthiopie. Et puis, moi, j'ai encore une petite annonce. Alors, Eleanor fait partie maintenant de l'organisation des Théopopètes. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'adresse plutôt aux parents qui ont des enfants entre 4 ans et 9 ans. Et puis, vous trouvez aussi des vidéos sur Internet. Et c'est très intéressant parce que ça parle de sujets que les enfants peuvent nous poser comme questions. Ça a un arrière-plan chrétien. Et je vous encourage à regarder les vidéos ou aller à ces séances. Il y a quelques flyers qui sont sur le présentoir. Et c'est les mercredis à 15h30. La série qui commence le 16 janvier, c'est au centre paroissial de Bernay-Confignon. Voilà.
Juste pour transmettre les salutations et les remerciements pour les prières de Jean-Daniel Staudenmann, quelqu'un que certains ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui ne peut plus venir chez nous depuis un certain nombre d'années à cause de sa santé. Je l'ai vu hier à Jolimont, où il est encore depuis, je crois, presque 2 mois, et encore probablement jusqu'au 20 janvier, après une opération, voilà.
Je vous invite à vous lever et je vous propose que nous disions ensemble la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu, le salut de Jésus-Christ et l'inspiration du Saint-Esprit nous accompagnent pendant cette semaine. Allez dans la paix. Bon dimanche.